Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Camille Groc, réalisée par Eliane Girard et Frédéric Milano et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, c'est Charles Pélabon. En 1914, Jacques Rouchet, alors directeur de l'Opéra de Paris, commande un livret de fantaisie lyrique à Colette. Ce sera L'Enfant et les Sortilèges. Ravel doit en être le compositeur, mais la collaboration n'est pas évidente et ce dernier est mobilisé près de Verdun en 1916. Il attendra 1919 pour donner de ses nouvelles à Colette dans une lettre qui est la gourmandise de ce matin et dont voici un extrait. « Chère Madame, dans le même temps que vous manifestiez devant Rouchet le regret de mon silence, je songeais du fond de mes neiges à vous demander si vous vouliez encore d'un collaborateur aussi défaillant. » L'état de ma santé est ma seule excuse. Pendant longtemps, j'ai bien craint de ne pouvoir plus rien faire. Il faut croire que je vais mieux, l'envie de travailler semble revenir. Ici, ce n'est pas possible, mais dès mon retour au commencement d'avril, je compte m'y mettre et commencer par notre opéra. À la vérité, j'y travaille déjà, je prends des notes sans en écrire une seule, je songe même à des modifications. Par exemple, le récit de l'écureuil ne pourrait-il se développer ? Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil et ce que ça peut donner en musique. Notre apothicaire de l'âme est un écrivain, traducteur, essayiste, metteur en scène et dramaturge né à Galați, en Roumanie. La publication à Paris de son premier roman ainsi que ses propos virulents contre le régime dans les nouvelles littéraires le force à quitter son pays natal. Il arrive à Paris en 1977 par l'Orient Express. 5 ans plus tard, il est visé par une tentative d'assassinat orchestrée par la dictature roumaine qui échoue en raison de la défection de l'agent chargé de l'exécuter. La DST organise alors le faux enlèvement de notre apothicaire et le met à l'abri quelques mois en Bretagne. Avant cette impressionnante péripétie, notre homme a étudié les lettres et la mise en scène à Bucarest, puis rédigé une thèse de sémiologie du théâtre sous la direction de Roland Barthes. Depuis l'événement, il a publié de nombreux romans en français, a collaboré à différentes revues dont Actuel, a adapté pour le théâtre Balzac, Tolstoï, Proust ou Renoir, a traduit Beckett, Molière, Gogol, a écrit sur Tchekhov, Saint-Exupéry, Camus ou Dostoïevski, Je suis épuisé, et a longtemps dirigé l'Institut culturel roumain de Paris. Ajoutons que son rapport à la langue est celui d'un poète et qu'il faisait dans les années 60 partie d'un mouvement opposé au réalisme socialiste qui succéda au surréalisme, mouvement qui obéissait au nom ravissant de groupe onirique. Bonjour Virgile Tanaz.
Bonjour.
Virgile Tanaz, dans le livre d'entretien Maroumanie, vous dites que vous avez connu la terreur dès l'enfance à cause des arrestations nocturnes et des dénonciations, mais plus loin vous dites que vous n'avez jamais éprouvé de peur par rapport au régime politique.
Oui, c'est une constatation. J'avais le sentiment que j'avais le devoir de faire ce que j'avais à faire. Et donc la question de la peur ne s'est jamais posée. Dans ce contexte, une lettre de la banque me fait plus peur qu'un chef d'État.
Virgile Tanaz, la première question de cette émission, c'est toujours quel est votre rapport à la mélancolie ? J'ai lu qu'à vers 16 et 17 ans, vous aviez une haine de la réalité qui vous faisait vous piquer à la morphine.
Haine de la réalité, j'ai écrit ça.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme bêtise ? Non, c'était... Je ne sais même pas ce que c'était. Une façon de me mettre à l'épreuve, une façon de toucher dans le réel ce qui n'est pas ordinaire. Et puis, finalement, c'était une crise d'adolescence.
Ce qui a remplacé cette autodestruction, Virgile Tanaz, c'est donc l'acte créateur.
Je crois qu'il y a dans... L'adolescence est une période très difficile, je le sais maintenant de différentes perspectives et des âges différents. Il y a une tentation de refus du monde. Le monde est tellement différent de ce que nous avons la sensation qu'il devait être. Et je crois que la tentation de se détruire chez les jeunes est beaucoup plus importante qu'on le croit. C'est une espèce, vous savez, comme dans les contes de fées, il y a une épreuve qu'on doit passer. D'habitude, c'est le plus petit de la fratrie qui la passe. Les autres ne la passent pas et ils restent en deçà de leur propre vie. Et il y a cette épreuve que la vie nous présente, l'adolescence. Et une fois qu'on l'a franchie, qu'on a la chance de la franchir, on est vacciné pour toute la vie.
Alors vous, Virgile Tanaz, vous vous considérez comme vacciné, par exemple, contre la mélancolie. Vous décrivez la sensibilité roumaine par l'angoisse cosmique.
Oui, c'est... Il y a dans l'esprit roumain une espèce de... Pas de résignation, parce que... vous le savez, les choses sont tellement évidentes que ce n'est pas la peine de se battre inutilement. Accepter le réel en tant que tel, la vie en tant que tel, le réel, terme philosophique qui ne me plaise pas, mais regarder l'existence en face, c'est quelque chose de très important. Et ça vous donne une sensation de liberté, finalement. Il y a dans un roman de Zola, j'ai vu ça, quelqu'un qui, comme ça, par hasard, une nuit, regarde le ciel et il voit l'immensité du cosmos. Et on se rend compte à quel point notre vie est insignifiante. Et c'est un excellent remède à la mélancolie.
Ah oui?
Ah ben, bien sûr, on est dans un mécanisme tellement gigantesque, inconcevable, mené par des forces tellement incompréhensibles par la raison, qu'il faut leur faire confiance et aller de l'avant avec cette grande joie d'avoir eu la chance d'être en vie.
J'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs, Virgile Tanaz, et on va se réjouir avec ce que vous avez choisi. Vous allez convoquer Claude Lelouch, Anatole France, La Révolte, Boris Vian, Le Chant des Partisans Russes, La Cuisine, Giovanni Bellini et Shakespeare, juste après le titre Flor do Sogno de Saulo Duarte.
Apartamento, os fatos se alinham.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Virgile Tanaz.
Moi, le névropacte cyclique, le chef de la paranoïa occidentale, que le pouvoir, c'est au bout du fusil.
1972, l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch avec les Badins, Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles Gérard et Aldo Machon qui campent des truands sans idéaux qui se servent de toutes les causes politiques pour se faire de l'argent. Virgile Tanaz, vous avez choisi la séquence des discours de la fin du film.
Ah oui, c'est le film de Lelouch est une telle image du monde politique d'aujourd'hui.
N'importe quoi, c'est-à-dire.
Ah oui, c'est n'importe quoi. Et il est fait avec beaucoup d'ironie, avec très pénétrant. Déjà, il y a une réplique du film, la cinquième, c'est foutu. C'était, donc il y a une cinquantaine d'années, la cinquième est foutue. Ça met du temps dans l'histoire, ça met du temps, mais vous voyez, les choses arrivent toujours.
Les héros de ce film, qui sont absolument délicieux, sont un peu des anarchistes sans le vouloir, puisqu'ils sont les spécialistes de la clarté dans la confusion. Mais en fait, ils s'emparent de tout, ils servent même un révolutionnaire sud-américain malgré eux. Seul l'argent les intéresse, donc quelle que soit la cause qu'ils défendent, pas de problème.
Mais bien sûr, parce que nous vivons dans une société où seul l'argent compte. Et on a raison en fonction, philosophiquement raison, en fonction de son compte en banque. Je vous dis, l'image de la société dans laquelle nous sommes en train de vivre est même pas dénoncée. Il est présenté là d'une manière sereine et amusante. On la retrouve chez Fellini aussi. Mais ici, par-dessus le marché, c'est gai, c'est, les comédiens sont merveilleux, c'est parfait.
Virgile Tanaz, il y a quelque chose qui frappe lorsqu'on vous écoute parler, c'est que vous dressez des constats très sombres de la société qui sont vérifiés et vous semblez vous en amuser. Vous semblez être serein, réconcilié avec la condition humaine qui est absolument terrible quand on y pense.
La condition humaine, c'est comme ça. Donc, comme je ne peux pas intervenir, j'en passe. Et pour le reste, j'ai le sentiment que j'ai fait mon devoir. Vous savez, il y a une chose qui explique beaucoup de choses en ce qui me concerne. À un certain moment, quand j'étais encore écolier, donc très très jeune, j'ai eu le sentiment que je suis intelligent, que j'ai du talent. J'écrivais des choses abominables, mais enfin, j'avais le sentiment que j'ai du talent. J'avais des parents qui m'aimaient beaucoup, donc j'étais un privilégié. Et je me suis dit que dans l'équilibre, je suis d'origine paysanne, dans l'équilibre de la nature, il faut qu'il y ait une compensation. Alors j'ai senti le devoir que j'ai envers, j'ai dit, ben envers qui ? Envers le peuple dont je suis né. Et alors j'ai fait mon devoir sans réussir. C'est pas moi qui ai renversé le régime, c'est pas moi qui l'ai déstabilisé. Je crois que l'histoire se fait à un autre niveau. Mais moi j'ai fait mon devoir, je suis tranquille.
Dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de sa solitude. Elle est un lieu commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur, je me révolte, donc nous sommes.
« Laure Grand-Besançon lit un extrait de L'homme révolté de Camus, auquel vous avez consacré une biographie, Virgile Tanaz. Votre idée consolatoire, c'est la révolte. Alors, la révolte, et non pas la révolution qui dérive souvent en conquête de la totalité. Pourquoi se révolter? Et avez-vous jamais été guetté par un sentiment d'inutilité, de découragement, d'impuissance?
L'impuissance... je la ressens aujourd'hui encore.
Elle ne vous empêche pas d'agir.
Ça ne m'empêche pas d'agir et ça ne m'empêche pas d'être révolté. Une injustice est une injustice et par nature et par culture, tout simplement, je ne peux l'accepter. Donc, je refuse l'adaptation. Vous savez, on fait un grand... grand cas de l'adaptation, que nous devons nous adapter à une nouvelle société. Non, l'adaptation, c'est la partie animale. L'animal s'adapte, c'est Darwin, c'est nous, les hommes, nous avons la possibilité, je crois qu'il y a une lumière en nous, qu'il y a, c'est Camus qui en parle à un certain moment, dans une lettre, un des plus stupéfiants textes que j'ai rencontré. Il écrit à Charles, et il lui dit, Camus, au fur et à mesure que j'avance, qu'avance un artiste est de plus en plus aveugle. Il voit de moins en moins. Il meurt aveugle. J'ai l'impression quand même que j'ai été conduit par la lumière qui est en moi. Je crois que nous avons en nous une lumière et que cette lumière, on lui est fidèle tant qu'on ne s'adapte pas. Je refuse d'accepter les injustices.
Mais Virgile Tanaz, vous avez toujours été en révolte. Déjà, l'école n'était pas une amie. Vous avez été exclu des jeunesses communistes, renvoyé de l'université en Roumanie. Et justement, deux des hommes auxquels vous vous êtes intéressé, Camus et Dostoïevski, ont tous les deux pensé la révolte. Est-ce que vous refusez de prendre part à toute forme d'idéologie? Comme les héros du film de Lelouch.
Vous savez, il n'y a pas l'idéologie, c'est la façon dont on voit l'avenir. Le problème, c'est que l'idéologie dominante et l'idéologie des autres n'est pas la mienne. Je crois que chacun d'entre nous doit se construire. Nous vivons dans un monde qui n'a pas de sens. Peut-être qu'il
l'absurde.
En a un, mais nous ne le savons pas. Donc, nous devons vivre sur une hypothèse. Cette hypothèse, nous la construisons nous-mêmes et nous en sommes responsables. Je construis ma vie selon ce que je trouve, moi, que peut être la lumière et le but. Et à propos de ce que vous disiez de l'impuissance, vous savez, on n'a pas besoin de parcourir tout un chemin pour être sur le bon chemin. Je suis content que je suis sur le bon chemin. Je n'ai pas ni les forces, ni même en littérature, je n'ai pas les forces d'arriver jusqu'au bout. Et je crois que chacun d'entre nous doit avoir exactement le même sentiment. Commencer la cathédrale, on la finira dans 100 ans, on la finira jamais, on ne sait rien. Mais il faut commencer et être sur le bon chemin.
Premier morceau qui vous réjouit, Virgile Tanaz, le chant des partisans russes par les chœurs de l'Armée Rouge, ces chœurs fondés en 1928 par Alexandre Alexandrov pour soutenir le moral des troupes. En 1928, ils étaient 13, aujourd'hui ils sont 400. Qu'est-ce que vous évoque ce morceau?
Des gens qui ont voulu construire un monde plus juste. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur idéal. Ils n'ont pas été dignes de ce qu'ils ont voulu. Mais le problème n'est pas là. Ils ont voulu changer le monde. Vous savez, quand je donnais encore des cours, je disais à mes étudiants qu'en fait, le grand rayonnement de la France, qui était presque ressemblant à celui de Florence à la Renaissance, c'était dans les années 50, quand on a eu le nouveau roman, la nouvelle critique, la nouvelle vague au cinéma, la psychanalyse de Lacan, l'anthropologie structurelle de Lévi-Strauss, parce que tous ces gens-là voulaient changer le monde. Maintenant, depuis un certain moment, on nous dit qu'il y a les lois objectives du marché, qui sont l'équivalent des lois objectives du matérialisme historique de Marx. On fait des élections pour choisir des hommes politiques qui nous disent de toute façon ils ne peuvent rien faire parce qu'il y a les lois objectives du marché. Et on ne veut plus changer le monde. Le monde est parfait tel qu'il est. On va bricoler par-ci, par-là. Et c'est la chute de cette lutte pour un monde meilleur qui est désolante aujourd'hui. Et je vous dis, le chant de ces gens-là qui allaient à la mort, qui donnaient leur vie, risquaient de donner leur vie pour une cause, pour un idéal de justice sociale. Je trouve que c'est encourageant.
Virgile Tanase, en fait, vous êtes très conscient, lucide du monde contemporain. Ça va souvent de pair normalement avec la mélancolie, mais vous avez une arme qui vous sauve de cela. C'est l'humour à tout prix, puisque presque tous vos remèdes sont une forme de parodie. Et par exemple, votre second antidote musical, il date de 1956. C'est une chanson écrite par Boris Vian, composée par Alain Goraguet et chantée par Vian et la comédienne Magali Noël. La chanson était interdite à la radio à cause des paroles jugées trop sulfureuses. Et en fait, Vian, qui n'aimait pas le rock, qui trouvait que le rock s'adressait à un public stupide et était quelque chose d'idiot, a voulu parodier le rock, mais a fait un morceau formidable. Et vous, dans Ma Roumanie, Virgile Tanase, vous dites que vous n'aimez absolument pas le rock. C'est toujours vrai ?
Oui, non, je ne l'aime pas. Vous savez, entre un organisme monocellulaire et nous, nous sommes vivants. L'organisme est tout aussi vivant que nous. Le rock, c'est un organisme unicellulaire, une symphonie de Mozart et quelque chose plus complexe dans l'existence.
Mais là, on va écouter Fais-moi mal, Johnny. Un petit mot dessus, c'est quand même réjouissant comme chanson.
Ah oui. Et je ne sais pas si vous... Certainement, vous avez vu le numéro de Marianne avec les chansons qu'on ne pourrait plus chanter aujourd'hui. Et il y a eu un grand dossier fait dans Marianne il y a quelques mois, 2 mois, je crois. Parce que nous vivons dans une société calligraphique et aseptisée. Toujours ceux qui nous veulent du bien et qui savent très bien où est la vérité manquent d'humour et nous construisent une vie absolument insupportable. Vous savez, la figure de M. Boulot, on la remplace à cigarette. Bientôt, il n'y a que les très riches qui auront la possibilité de se tuer par le tabac. Je ne fume pas. Pas, mais je trouve ça révoltant.
Et puis vous pouvez vous mettre à fumer, il n'est jamais trop tard. Révoltons-nous dans ce studio, Virgile Tanase. Écoutons Boris Vian et Magali Noël. Fais-moi mal, Johnny.
Il s'est levé à mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Je me fais mon mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal. Vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec. Et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, j'aime pas l'amour qui fait bing.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai, fais-moi mal, Johnny, envoie-moi au ciel. Non mais fais-moi mal, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum.
Oh Johnny.
Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Virgile Tanaz. Anatole France nous a rejoint en imagination, puisque votre sérum littéraire, c'est son drôlatique récit « L'île des pingouins » paru en 1908, un roman d'anticipation, parodie de l'histoire de France. C'est un homme un peu myope qui découvre des pingouins et qui les prend pour des hommes, les baptise. Et hélas, au ciel, ça se passe mal, puisqu'on se dit on peut pas baptiser des pingouins, il va falloir leur donner une âme, les transformer en demi-hommes. Et puis ça se passe, et là, tous les travers de l'humanité arrivent.
Oui, on leur dit, oui, quand même, on va leur donner une âme, mais une toute petite.
Oui.
Et c'est l'histoire parodique de la France. Alors j'ai choisi d'Anatole France un passage qui me semble d'une terrible actualité. C'est que quand le peuple pingouin commence à s'organiser, on parle des impôts. Et alors.
Et de la propriété. C'est oui. Juste après la propriété.
Quand le saint homme eut parlé, Moriot, laboureur à Nice sur Clange, un des plus riches hommes parmi les pingouins, se leva et dit « Oh, mon père, j'estime qu'il est juste que chacun contribue aux dépenses publiques et aux frais de l'Église. Pour ce qui est de moi, je suis prêt à me dépouiller de tout ce que je possède dans l'intérêt de mes frères pingouins, et s'il le fallait, je donnerai de grand cœur jusqu'à ma chemise. Toutefois, il faut considérer uniquement l'intérêt public et faire ce qu'il commande. Or, ce qu'il commande, oh mon père, c'est ce qu'il exige, c'est de ne pas beaucoup demander à ceux qui possèdent beaucoup. Car alors les riches seraient moins riches et les pauvres plus pauvres. Les pauvres vivent du bien des riches. C'est pourquoi ce bien est sacré. N'y touchez pas. Ce serait méchanceté gratuite. En chargeant tout le monde également et légèrement, vous épargnerez les pauvres, puisque vous leur laissez le bien des riches. Et comment serait-il possible de proportionner l'impôt à la richesse? Les signes de l'opulence sont trompeurs. Ce qui est certain, c'est que tout le monde boit et mange. Imposer les gens d'après ce qu'ils consomment, ce sera la sagesse et ce sera la justice.
Et on l'applaudit après ce passage, Virgile Tanaz.
Ah oui, on l'applaudit, on met cela dans les tables de la loi. Et c'est d'actualité.
Hélas. L'île des pingouins d'Anatole France, c'est une lecture très fantaisiste, réjouissante et tragique en même temps. Drôle, tendre et tragique.
Mais c'est il a de l'humour. La fin n'est pas très significative. Mais Anatole France, j'aurais pu citer Voltaire. Pour me mettre en état, avant mes examens, je lisais Voltaire, qui n'était pas un mélancolique non plus.
Vous aimez l'ironie, Virgile Tanaz.
Ah oui, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Nous vivons dans un... Vous savez, le XXe siècle dont je sors, ça a été un siècle abject. Heureusement, je parle en Europe. Heureusement, l'Europe du XXIe siècle commence par être drôle. Quand j'ouvre la télévision, j'entends les gens du pouvoir Ah, mais c'est du pur Feydeau. C'est... Sarkozy avait encore quelque chose de l'érotypique de Molière, de La Bruyère, avec un peu de politique de Beaumarchais. Ensuite, avec le sentimentalisme de son successeur, on est entré dans la biche. Maintenant, c'est la mécanique pure de la comédie. Des personnages qui n'ont plus de caractère, qui n'ont plus de psychologie, qui sont des fonctions comiques. J'ouvre la télé et je m'amuse comme au théâtre.
Et on sait que la comédie, c'est une façon de traiter de façon drôlatique la tragédie.
Avec une spécification qui me concerne, j'ai le sentiment que les changements dans l'histoire sont comme les plaques tectoniques, sont des forces beaucoup plus amples. C'est pas les individus, c'est pas les élections, c'est pas qui change la chose de l'histoire. Donc on peut s'amuser, parce que évidemment que c'est révoltant, c'est injuste, mais comme on n'y peut rien, on peut s'amuser en toute tranquillité, comme au théâtre, on ne peut pas sauver Hamlet.
Impuissance, théâtre, c'est le remède suivant.
Peut-être irai-je avec vous. Mais j'hésite encore, car il m'en coûte de violer la loi. Ni ami, ni ennemi, soyez mes hôtes. Puisque je ne peux plus rien, je ne me soucie plus de rien.
Richard II de Shakespeare, on entend le duc d'York joué par Daniel Sorano dans la mise en scène de Jean Villard pour le TNP en 1953. La traduction est signée Jean-Louis Curtis. Virgile Tanaz, vous qui êtes aussi traducteur, vous avez choisi une autre version dans laquelle se trouve la citation qui vous appuie. Elle se trouve à la fin de l'acte 2, scène 3. « Les choses implacables me laissent indifférent ». Ça, c'est votre traduction finalement, puisque j'en ai lu une autre de François Victor Hugo qui est « Les choses devenues irrémédiables me deviennent indifférentes ».
Oui, c'est la même chose. Mais l'idée est...
C'est très stoïcien.
Oui, si vous voulez, mais il n'y a rien à faire. Donc, tant qu'on ne peut pas intervenir, vous savez, s'il y a quelqu'un qui tombe dans la rue, je me précipite pour l'aider. Un enfant qu'on tue en Afrique, je ne peux rien faire. C'est pas une indifférence, mais je sais que c'est pas dans mon pouvoir d'intervenir. Mais si vous voulez, ça peut se traduire aussi d'une autre manière. Les situations dans lesquelles je ne peux pas intervenir me laissent indifférent.
Mais c'est vraiment de l'indifférence, ça ne vous touche pas du tout? Ou c'est le fait de ne pas vous concentrer dessus pour ne pas souffrir, puisque vous n'y pouvez rien?
L'indifférence, le sens de la phrase là est très personnel. C'est pour sa pomme. Et évidemment que autour, ça produit la révolte.
Et Virgile Tanaz, est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que ça a nécessité un travail chez vous? Ne plus être touché par les choses sur lesquelles vous êtes impuissant.
C'est que on construit sa vie comme on peut. Vous savez, j'ai une autre image que j'emploie souvent. Avec les mêmes briques, on peut faire une prison, on peut faire une école, un hôpital. Avec mes briques, j'ai construit une vie où je crois que je suis sur le bon chemin. Maintenant, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que c'est le bon chemin? Je ne sais pas, c'est de mon point de vue. Est-ce que dans d'autres circonstances, vous savez, un de mes regrets, c'est que comme je n'aime ni la gloire ni l'argent, je n'ai jamais fait le nécessaire pour m'imposer. J'ai toujours travaillé à Paris dans un théâtre très marginal et peut-être que j'aurais pu avoir un impact, ma révolte aurait pu être plus efficace, mais on n'est que l'homme de son caractère.
Oui, et puis si ce que vous avez construit avec vos briques vous convient, vous vous interrogez, Virgile Tanaz, est-ce le bon chemin? Oui, c'est votre chemin. Vous vous sentez à votre place? C'est rare.
Oui, c'est... D'ailleurs, exister, ça signifie se trouver sa place, étymologiquement, trouver sa place.
Ah, étymologiquement?
Oui.
Mais c'est très difficile, ça peut être la quête de toute une vie de trouver sa place.
Sauf qu'on a toujours une place.
Hélas. Oui. Dans un instant, nous serons en Italie, en ce qui nous concerne, le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, Nuit sans sommeil, de Cléa Vincent. À la mélancolie sur France Inter avec Virgile Tanaz. Non avrà mai pietà du compositeur du 15e siècle Francesco Landini, interprété par l'ensemble Alta Musica, pour introduire l'œuvre d'art qui vous grise, Virgile Tanaz. C'est la Vierge dei Frari de Giovanni Bellini qu'on peut contempler dans la chapelle de l'église dei Frari à Venise, une basilique franciscaine qui a dû attirer l'attention de l'auteur d'une biographie consacrée à Saint François d'Assise. L'œuvre date de 1488, c'est un triptyque et je vous laisse le décrire, Virgile Tanaz, aux auditeurs.
Non, mais il n'y a même pas à décrire. Il y a, c'est une telle tranquillité, c'est une telle, les lignes sont paisibles, les couleurs sont harmonieuses, c'est une chapelle un peu latérale de l'église. Les gens n'entrent pas beaucoup dans cette chapelle, donc il n'y a pas la grande foule de la nef. Et on est tranquille, je la regarde et je me sens apaisé. Je n'ai jamais essayé de transformer cela en idée. Ça me suffit qu'il y a un certain nombre d'œuvres comme ça qui, je les regarde et je me sens bien, au point, c'est tout.
Quelles autres œuvres, par exemple, Virgile Tanaz ?
J'aime beaucoup Simone Martini. J'aime certains tableaux impressionnistes. Le chant de Coquelicot, c'est-à-dire avant que la peinture devienne abstraite. J'ai Et ça, c'est le théoricien qui a travaillé avec Barthes qui parle. J'ai l'impression qu'au moment où le personnage disparaît en littérature, la mélodie en musique et la forme reconnaissable en peinture, l'art s'arrête. De là, on entre dans l'exceptionnalité. Dans le raisonnable, ce n'est plus l'artistique.
J'ai l'impression, Virgile Tanaz, que vous êtes plus classique en peinture qu'en littérature.
Non, c'est pas vrai. Nicolas de Staël, l'effort de revenir de
qui faisait des
de l'expérience abstraite vers le réel. Me plaît. Nicolas de Staël est un peintre qui me plaît. Comme Braque, d'ailleurs. Je trouve que... Vous savez, je suis romancier, moi je raconte des histoires. Une fois, j'ai fait une interview, je fais du journalisme aussi, avec une dame qui dirigeait une grande galerie d'art moderne en Suisse. Et pendant toute l'interview, une heure et demie, j'ai essayé de la faire dire qu'est-ce qui lui fait choisir les peintres étoiles. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il choisissait d'après le discours qui était à côté. Quand je regarde le triptyque de Bellini, quand je regarde la Pietà de Michel-Ange, je n'ai pas besoin d'explication.
Mais vous êtes un animal sensible et vous ne faites appel qu'à vos sens, Virgile Tanaz. Et surtout, ce qui frappe depuis tout à l'heure quand on vous écoute, c'est que vous produisez votre propre pensée. Or, beaucoup d'entre nous aujourd'hui se contentent de prendre la pensée majoritaire en place et de se l'approprier sans même essayer de la comprendre. Vous, vous pensez par vous-même.
Oui, je crois que c'est ce qu'on doit faire. Parfois, je prends aussi l'opinion générale.
Mais vous l'interrogez.
De toute façon, je sais que c'est la mienne et que j'en suis responsable. C'est-à-dire le fait que, vous savez, comme au Moyen-Âge, consensus omnium, tout le monde croyait que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, et l'argument c'était puisque tout le monde le pense. D'ailleurs, vous allez voir dans le discours politique aujourd'hui, assez souvent revient, mais tout le monde le pense.
Oui, non, comme même si
tout le monde le pense, c'est pas véracité. L'argument.
Il nous reste 2 minutes, Virgile Tanaz, pour évoquer l'activité qui vous met en joie, c'est faire la cuisine, et je pose toujours cette question, est-ce que vous la faites pour vous seul aussi?
Non, je la fais pour... pour mes enfants, pour ma femme, et j'ai la joie de... Vous savez, le travail littéraire est très difficile, et de temps en temps, on a besoin d'un break.
Et de concret.
On fumait. La cigarette, je crois qu'elle a joué un rôle très important dans le développement de la littérature ces derniers siècles. Et... je ne fume plus depuis des années et des années, une vingtaine, une trentaine d'années. Alors je sens le besoin d'interrompre le travail littéraire parce que les idées viennent toujours par le côté, d'une manière, on travaille sur une scène, de roman, et puis aucune idée, on va à la cuisine et en faisant une confiture de cerises noires, l'idée vient.
Il faut engager le corps.
Oui.
Il y en a qui marchent, il y a beaucoup d'écrivains qui marchent pour trouver leurs idées.
Dostoïevski a marché.
Et avez-vous une spécialité, Virgile Tanaz, une recette très courte?
Je crois que la langue de veau aux olives,
c'est audacieux.
C'est ma spécialité. Tout était dans la main, dans la technique. La recette en elle-même, on la trouve partout. Mais bien dorer l'oignon avant, mettre juste le jus de tomate qu'il faut, pas trop d'olive verte, bien bouillir la langue de veau. C'est ça le secret.
On voit une jubilation dans votre regard, Virgile Tanaz. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
C'est moi qui vous remercie.
Je renvoie porte ceux qui nous écoutent vers votre abondante bibliographie, par exemple votre roman Zoya qu'on peut encore trouver. Signalons la récente réédition de votre biographie Tchekhov dans la collection Folio de Gallimard, collection dans laquelle on trouvera aussi vos ouvrages consacrés à Camus, Dostoïevski, Saint-Exupéry ou encore Saint-François d'Assise. Chers auditeurs, la programmation musicale Les Remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission. J'espère que votre âme a le même entrain que celui d'une hélice galante. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h.